Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, travailleurs, travailleuses et les autres aussi, bonjour et bienvenue, vous écoutez L'Onde Curieuse. Aujourd'hui, on se réalise, on s'épanouit, ou on burn out, on bore out, on est surchargé, surmené, stressé, angoissé, épuisé, vidé, viré, harcelé, pressé, opprimé, dominé, relégué, déconsidéré, invisibilisé, empêché, placardisé. Aïe, l'éventail lexical de la souffrance au travail est presque plus fourni que l'intégralité du vocabulaire des discours de Donald Trump. 70 mots, je le rappelle. Ce qui en dit long sur nos relations au travail, on semble alterner entre souffrance d'un côté et désaffection de l'autre, selon les dernières enquêtes. Seul un salarié sur cinq estime en France son travail comme très important dans sa vie, contre 60% en 1990, selon une étude de l'IFOP, et ça s'est accéléré avec le Covid, et parallèlement, 43% des actifs dans le monde, cette fois-ci, disent avoir une santé mentale moyennement ou fortement dégradée à cause de leur travail. Alors, comment on s'en sort dans tout ça? Si la question vous travaille, voire vous tiraille, une association a vu le jour il y a un peu plus d'un an, l'association Sam Travail, qui invite à penser individuellement mais surtout collectivement ces questions et cherche à favoriser la santé et la qualité de vie au travail. Un espace de développement collectif, sans objectif à atteindre, ni reporting à produire en quelque sorte. Bref, une bouffée d'air avec un R comme réflexion, voire révolution. On en parle avec l'une des deux cofondatrices et présidentes de l'association, Mickaëlle Sobral, qui a longtemps occupé des postes de direction dans le médico-social et qui a par ailleurs un master en sociologie des organisations dont le sujet est le mal-être au travail. Bonjour Mickaëlle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On parle de tout ça dans un instant, juste après l'agenda. Et l'agenda qui est, comme tous les jours maintenant et depuis 10 jours, présenté notamment par Marion. Salut Marion.
Bonjour.
Qui va aussi mener l'interview dans un instant. Et puis toujours avec nous Sylvain. Salut Sylvain.
Bien le bonjour.
Alors pour commencer, il est important aussi d'encourager et de supporter les autres dans leur travail, notamment nos producteurs ardéchois. Et d'ailleurs, aujourd'hui débute la nouvelle saison du Petit Marché des producteurs et artisans locaux. Jusqu'en octobre, ce marché aura lieu au cœur du village de Chambonas. Ça se passe tous les jeudis de 17h30 à 21h. Chaque animation est annoncée sur la page Facebook Le Petit Marché.
Oui, ça sent le printemps parce que ça va durer jusqu'en octobre. Wow, c'est bon, des petits marchés qui s'ouvrent. Musique et poésie à Priva maintenant, puisque ce soir et jusqu'à samedi, Dominique Lardenois redonne voix à Blaise Sandrard. Après la prose du Transsibérien, il s'attaque cette fois-ci à l'œuvre « Les Pâques à New York », un poème puissant écrit en 1911, où le poète mêle errance new-yorkaise, quête spirituelle et regard sur la condition des immigrants. Sur scène, il sera accompagné à l'accordéon par Zoé Chad. Voilà un petit moment de poésie dans ce monde à découvrir à 19h30 à l'atelier de Priva dès ce soir. Les tarifs est de 10 euros, mais pensez à réserver.
Demain à 18h, la médiathèque de Jean Ferrat à Aubenas vous invite pour un moment musical en toute intimité. Ça sera Kesiama, un duo d'artistes ardéchois qui viendra présenter leur univers pop électro teinté de douceur et de poésie. Ce showcase s'inscrit dans le cadre du dispositif court-circuit porté par la SMAC 07 en partenariat avec la médiathèque et le Pas de Côté. Une occasion de découvrir 4 à 5 morceaux en live, d'échanger avec l'artiste, mais aussi de mieux comprendre le travail d'accompagnement de la scène locale. C'est gratuit et c'est ouvert à toutes et tous, et ça commence à 18h demain.
Oui, et c'est l'occasion de redire le partenariat que fait la médiathèque, donc tu l'as dit, avec la SMAC 07, le Pas de Côté et Fréquence 7, et qui s'ouvre comme ça à tous les univers musicaux. On aura l'occasion de se retrouver très prochainement, nous, Fréquence 7, à la médiathèque. Il me semble que c'est dès septembre. Voilà. Et puis aussi, si Kesiama vous intéresse, que vous l'avez entendu demain à la médiathèque, ils seront en concert au Pas de Côté samedi à 20h30. Demain à 18h30, c'est la dernière séance. Oui, Eddy, qu'est-ce que tu nous racontes? La dernière séance du cycle En Parallèle. Oui, mais c'est les vertiges, j'ai le droit de dire n'importe quoi maintenant. Qui est proposée par l'Association des étudiants infirmiers d'Aubenas. Une soirée placée sous le signe de la science-fiction, de l'émotion, avec un brin de satire sociale, peut-être, avec la projection du film Downsizing. Alors, vous imaginez une solution radicale à la surpopulation? C'est rapetisser, oui. Oui, il me semble que vous êtes tous intéressés autour de cette table. Vous rapetissez les humains à 12 cm. C'est le pari un peu fou du film où Paul Safranek, un Américain lambda, voit là l'occasion de transformer sa vie. Moins de place, mais plus de confort. Oui, une aventure pleine de surprises l'attend. Voilà, c'est un peu un problème, une solution. Je ne sais pas si c'est la même chose avec le travail. Je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Ah, si seulement. Les tarifs, c'est 6,50 € pour le grand public et seulement 2 € pour les étudiants infirmiers. Alors, j'apprends que à la Casita, pardon, je te coupe la parole, à la Casita, il n'y a pas que des sessions trab. Moi, j'étais habituée par les sessions trab de Marie, notamment, mais non, il se passe autre chose.
Et oui, le temps est un peu gris, mais on peut mettre un peu de couleur, car aujourd'hui, à la Casita, on a le vernissage de l'exposition du peintre François Riffard, où l'artiste présente donc une sélection de ses toiles jusqu'au 17 mai. C'est un voyage pictural où les couleurs éclatent, et les formes dansent quelque part entre rêve et réalité. Le vernissage commence donc ce soir à 18h en présence de François Riffard et l'expo est ensuite visible du mardi au vendredi à partir de 18h et le samedi matin dès 10h.
Ouais, les formes dansent. Eh bien, nos espoirs aussi dansent grâce à Patti Smith. People have the power. People have the power, mais oui, Patti Smith, elle nous le disait déjà en 1988 dans l'album Dream of Life. Elle nous botte joliment le jambon en nous rappelant que oui, nous avons le pouvoir et que en plus, I believe everything we dream can come to pass through our union. Je crois que tout ce dont nous rêvons peut passer par notre union. Une ode au collectif suggérée par notre invité du jour.
Ça laisse à réfléchir. Nous sommes aujourd'hui avec Mickaëlle Sobral, du coup, présidente de l'association SAM Travail et cofondatrice également. Vous, votre engagement, il prend racine un peu plus loin, parce que vous avez travaillé dans le secteur social et médico-social.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre parcours professionnel vous a conduite à vous questionner par rapport à cette, la question du travail sous l'angle de la santé mentale ?
Alors, le travail, ça a toujours occupé une place centrale dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Et j'ai toujours été assez fascinée par le rapport de l'être humain avec le travail. C'est-à-dire que, bien plus que gagner sa vie, je voyais bien qu'il se jouait bien, bien d'autres choses là-dedans. Donc j'ai toujours été très engagée dans mon travail. Effectivement, j'ai été directrice pendant un certain nombre d'années d'établissements qui accueillaient des personnes en situation de handicap. Et puis, un virus est arrivé, le Covid. Et là, mon bien-être au travail a plus que petit à petit disparu. Je me suis retrouvée dans une assez grande souffrance au travail et je ne comprenais pas forcément ce qui se passait pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'étais en situation d'épuisement professionnel, de burn-out. Heureusement, j'avais repris des études. Je venais de reprendre des études en sociologie des organisations, vraiment centrée sur la sociologie du travail. Et petit à petit, ça a éclairé ce que j'étais en train de vivre, qui n'était pas une défaillance personnelle, qui n'était pas une situation personnelle comme je le vivais, mais quelque chose de bien plus large qui se passait. Et un certain nombre d'auteurs m'ont permis de comprendre de quoi ça parlait. C'est vrai que le Covid a accéléré des choses, mais qui étaient déjà bien à l'œuvre dans tous les domaines, y compris le médico-social, où est arrivée de plus en plus la logique gestionnaire, avec des systèmes où en fait les prises de décision s'éloignent de plus en plus du terrain, et l'arrivée de métiers dont que Marianne Dujarrier, une sociologue, nomme les planeurs, c'est-à-dire ceux qui vont planifier les choses, mais aussi ceux qui sont complètement déconnectés du réel, et qui, pour appréhender le réel qu'ils ne connaissent pas, vous demandent de traduire le réel dans des tableaux Excel, des courbes, des graphiques. C'est magnifique, mais c'est en fait évidemment que le réel, il rentre pas là-dedans. Sauf que les décisions, elles se prennent avec ça, au vu de ça. Et on me demandait en fait d'arriver à une, on va dire, un zéro risque, c'est-à-dire que je devais absolument maîtriser tous les risques. Et il y avait une part de moi qui se disait, en fait, c'est impossible, ça n'existe pas, maîtriser tous les risques, surtout dans l'humain. Sauf qu'il y avait une autre part de moi, et c'est celle-là qui a gagné, qui se disait, en fait, c'est moi qui suis défaillante, j'arrive pas à garantir ça, j'y arrive pas. Et petit à petit, moi qui étais très engagée et qui ai toujours fonctionné avec beaucoup de plaisir dans le travail, mon travail n'avait plus de sens. Tout devenait impossible dans mon esprit, j'avais plus que... tout était par définition impossible. Bon, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui se passait, et jusqu'à prendre en tout cas la décision de dire clairement je ne veux plus de cette vie-là, donc j'arrête, j'ai arrêté de travailler. Et dans ce parcours, qui est un vrai parcours de reconstruction, en fait, j'ai trouvé plein de solutions individuelles, c'est-à-dire voir un psychologue, voir une art thérapeute, donc plein de choses qui se sont passées, mais rien de collectif. Et sauf que moi, ce que je voyais, c'est que les rares fois où je rencontrais une personne qui avait vécu un peu une expérience similaire, on se mettait à parler et là, il se passait quelque chose. Ça résonnait. Je voyais qu'il se passait quelque chose pour elle comme pour moi. Et je me disais quand même, c'est de ça, moi, dont j'aurais besoin. C'est d'un groupe de parole, c'est de se retrouver avec d'autres, des pères qui ont vécu, qui vivent ça. Et j'en ai pas trouvé en Ardèche. Et en parallèle avec Noël Brioude, ma meilleure amie, on se disait quand même, le travail, ça nous prend beaucoup de temps, parce qu'on y passe beaucoup de temps quand on y est, mais quand on sort du travail, ça s'arrête pas, en fait. Ça continue à nous travailler. Voire même la nuit, on en rêve, parce qu'en fait, notre esprit, il essaye d'élaborer, trouver des solutions. Et il nous prend beaucoup d'énergie psychique. Et en fait, c'est où qu'on peut parler de ça, qu'est-ce que c'est? On aurait besoin d'espace pour en parler, pour y réfléchir, pour y penser, mais surtout pour que ce soit collectif, c'est-à-dire pour sortir de cette espèce de sentiment qu'on est beaucoup à avoir, qu'on est seul à vivre ces choses-là et que c'est lié à notre responsabilité alors qu'en fait on est traversé par des choses bien plus larges. Et voilà, et petit à petit on s'est dit bah ok, peut-être qu'il faut créer ça, et on a créé cette association qui s'appelle SAM Travail.
Eh bien, merci. Et du coup, c'est vraiment cet aspect collectif qui vous intéresse en fait dans cette association. Vous avez aussi créé un forum qui s'appelle un forum théâtre, c'est ça ?
Oui.
Que vous avez déjà fait une session en mars. Comment ça se passe, ce genre d'événement ?
Alors effectivement, la question du collectif, je reviens juste dessus parce qu'elle est fondamentale pour nous. D'une part parce que c'est vraiment ce qu'on veut apporter, c'est vraiment l'éclairage de ces questions ne sont pas individuelles, ces questions elles sont sociétales, elles sont collectives, elles sont politiques. Et d'autre part parce que le collectif, à notre sens, c'est la vraie ressource. C'est-à-dire que c'est très difficile de s'en sortir seul. Enfin, l'enjeu, c'est vraiment comment on recrée des collectifs qui ont été bien mis à mal par des évolutions. Donc voilà, il y a cet enjeu-là. Alors le Théâtre Forum, il nous est arrivé comme pas mal de choses, une belle rencontre. En fait, c'est Marie Pinet, qui est une professionnelle du Théâtre Forum, qui est venue me rencontrer en me disant bah, « J'ai appris que cette association existait, je trouve ça super, et moi, je voudrais bien y contribuer, et moi, je peux te proposer d'animer bénévolement du Théâtre Forum. » Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste, c'est une découverte pour moi, c'est une nouvelle aventure. Donc effectivement, on s'est réunis une première fois. Vous voulez que j'explique un peu avec ma faible connaissance de ce qu'est le Théâtre Forum ?
Oui. Okay.
Donc ça a été créé, à l'origine ça s'appelait le Théâtre de l'Opprimé, c'était Augusto Boal qui était un Brésilien qui a créé ça. L'idée du Théâtre Forum, c'est de se dire, il s'agit déjà d'identifier les situations de domination qu'on peut vivre dans la vie en général. Nous, on va s'axer sur le travail. Dieu sait, je pense qu'il y a un certain nombre de situations de domination dans le travail. Ne serait-ce que, déjà en France, le contrat de travail, eh ben, c'est un seul contrat qui inclut un lien de subordination. Donc c'est déjà fort. Et donc l'idée, c'est ça. C'est on va déjà identifier, mettre des mots sur ces situations qu'on peut vivre, chacun où il y a de la domination. Et ensuite, il s'agit d'être dans une sorte d'entraînement collectif sur comment on fait face à ça. Donc on a une première séance qui était surtout de faire connaissance du groupe. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'écrire une scénette à partir de nos vécus les plus intimes. Mais en fait, l'intime, il est fondamentalement, il parle à tout le monde en fait. De pouvoir écrire ces scénettes avec des personnages, puis ensuite de leur représenter un public. Et le public dans le Théâtre Forum, il est acteur, en fait. Il va s'agir de rejouer sans cesse cette scène, et chacun est invité à venir la jouer sur « Ok, comment on pourrait faire face à cette situation-là »
Juste une petite précision. Donc, il y a eu une première séance. En fait, ce sont 4 séances. Mais il est possible, si vous êtes intéressé quand même, de prendre le wagon en marche pour les 3 autres séances, donc qui auront lieu la prochaine. Elle a lieu ce samedi après-midi de 14h à 17h au Palabre, puisque c'est un partenariat avec le Palabre.
Ouais.
Voilà, petite précision. Et aussi, juste pour remettre dans le contexte, ça, c'est une des formes collective que vous proposez, et vous en proposez d'autres ?
Oui, en fait, quand on a créé l'association, on a proposé une réunion d'information et de rencontre pour voir s'il y avait des gens intéressés par ces questions du travail. Il y a une 30aine de personnes qui sont venues dans mon petit village à Saint-André-de-Valls, donc c'était plutôt pas mal. Et à partir de là, en fait, on est parti de ce qui sortait, de quels étaient les besoins des personnes, et on a mis en place des ateliers sur différentes thématiques, sur qui ont pu être, de quoi j'ai besoin en fait pour être bien dans mon travail, ou qu'est-ce que je peux trouver comme ressources, sachant que les ressources, ça peut être, c'est quoi les espaces de liberté qu'on peut se trouver aussi dans le travail. Donc ces temps d'atelier, c'est des temps où on alterne des petits temps en binôme, qui vont faciliter un peu de l'introspection par un jeu de miroir, et des temps où on repasse en groupe, pour toujours la question du groupe, du collectif, la discussion de penser ensemble. On a proposé aussi des groupes de parole animés par une psychologue pour pouvoir venir entre pairs parler et déposer par quoi on est traversé et ce qu'on vit. On propose aussi des récits. Alors c'est la seule action individuelle là qu'on mène, c'est collecter des récits de travail. Donc ça peut être soit faire parler quelqu'un qui en a envie de son travail, de ce qu'il aime, de ce qui lui plaît, mais aussi de ce qui peut être difficile et de comment, quelles sont les ressources qu'il trouve pour faire face à ça. Ou ça peut être des personnes souhaitent parler d'une situation très précise qu'ils ont vécue. C'est un peu une manière de le déposer à cet endroit-là. Notre objectif à terme, c'est de pouvoir rendre visible ce travail, tout ce qui se passe sous le ressenti des personnes. On est encore en réflexion sur comment on va le rendre visible, si est-ce qu'un jour on arrivera à publier quelque chose. À voir. On peut aussi, j'ai animé aussi une petite intervention pour le réseau de santé mentale Sud-Ardèche sur qu'est-ce que c'est que l'épuisement professionnel. Donc on peut aussi mettre en place des actions de sensibilisation, d'information. Mm-hmm. En réalité, en fait, je pense qu'on est assez adaptable et la question c'est quels sont les besoins sur le terrain et qu'est-ce qu'on peut proposer pour s'adapter au mieux aux besoins des personnes.
J'imagine qu'il y a aussi une importance du fait d'avoir la possibilité de communiquer avec quelqu'un sur ce qu'on ressent au travail en sortant justement de ce cadre du travail.
Oui. Notre idée, c'était qu'il y ait un espace qui soit hors du travail, pour parler du travail. Mmh. Alors, même si ce qui peut être un peu compliqué, parce qu'on est en Ardèche et que tout le monde se connaît, et que du coup, il peut y avoir une appréhension aussi à venir parler en groupe, dans un groupe qu'on ne connaît pas, avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui peut-être connaissent d'autres personnes. Donc c'est pour ça que c'est important que les gens qui participent s'engagent à la question de la confidentialité. Les paroles qu'on reçoit, c'est des paroles très... c'est très émouvant, hein, parce qu'il y a une grande authenticité. Les gens se livrent et disent des choses d'eux qui sont très touchantes. Je pense que vraiment toutes les personnes qui participent sont touchées et que ce respect de la confidentialité il est plutôt assuré.
Ok.
Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Depuis que vous avez mis ça en place, vous avez l'impression d'avoir... est-ce que vous avez déjà eu des retours des personnes qui ont assisté à vos ateliers est-ce que ça a eu un impact derrière sur leur vie?
Oui. En début d'année, on a voulu travailler sur notre projet associatif, l'écrire. Et du coup, on a pris un temps avec les personnes qui souhaitaient, qui avaient participé, pour réfléchir à une utilité sociale. Est-ce qu'il y avait une utilité sociale à notre association? On les a fait réfléchir sur qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher à l'association et qu'est-ce qu'ils y ont trouvé. Et ce qui ressort très clairement, c'est la question de rompre l'isolement, ce sentiment d'isolement, de solitude face à ce qu'ils vivaient. C'est d'avoir pu avoir des échanges. La question de l'accueil et de l'écoute sans jugement, elle est ressortie fortement. Et ça leur a permis de pouvoir cheminer, prendre du recul par rapport à ce qu'ils vivaient et vraiment cheminer. Ouais, c'était très touchant. Ouais.
Ok.
Est-ce qu'il y a des grandes questions, des grandes tendances qui reviennent souvent dans le rapport des gens à leur travail?
Alors, avec les personnes qu'on a pu rencontrer, c'est la très forte place, enfin vraiment combien c'est central pour les personnes qu'on a pu rencontrer, le travail. Et du coup, la désillusion ou la souffrance est à hauteur de cette attente qu'il y a. Donc, moi, je ne vois pas du tout la perte de ce qu'on raconterait, la perte de la valeur travail, on ne la voit pas du tout. Au contraire, les personnes sont extrêmement investies dans ce qu'elles croient. Après, elles peuvent se désinvestir par protection, parce que ce qu'elles peuvent vivre peut être vraiment... trop difficile. Et alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont venues du secteur social, médico-social, des soins, de l'enseignement. Je crois que les enseignants sont de plus en plus mis à mal, eux aussi. Et voilà, on était face à des personnes extrêmement engagées, enfin extrêmement convaincues par l'essentiel de leur travail, et qui se retrouvent dans des situations très difficiles, cornéliennes. Je crois que le terrorisme n'est pas mort du tout. Et je suis très frappée sur la question des enseignants. et aussi des personnes qui travaillent dans les collectivités locales, donc qui étaient sur des logiques d'engagement, de service public, et là, pour le coup, qui sont mises à mal avec, avec des systèmes d'organisation et de management très particuliers.
Il y a effectivement là une confrontation terrible entre, d'une part, c'est un peu des métiers mission, finalement, avec un sens très fort. Et c'est ce que tu disais. Du coup, le choc est terrible entre la réalité et les espoirs, en fait, qui sont encore...
Oui, et puis le fait d'être des professionnels qui sont confrontés, qui sont leur travail, c'est vraiment l'accompagnement de l'humain. Donc eux, ils sont au quotidien avec ça, et au-dessus d'eux, ben, des orientations, des directives qui sont, comme je l'évoquais tout à l'heure, la question des planeurs, c'est-à-dire que c'est des logiques totalement différentes, enfin totalement déconnectées du réel.
Mmh.
Ouais, peut-être avant d'esquisser peut-être des solutions, des pistes, en tout cas de réflexion, comment on peut faire pour se sentir bien au travail. Une question, parce que on a eu une discussion avec Marion qui est plus jeune, quelques années, quoi, et qui a un autre rapport au travail, sur les jeunes par rapport au travail. Toi, tu te questionnais, Marion,
sur
le rapport, et tu te demandais si c'était aussi une question de génération. S'il y avait,
que les en fonction des générations, les personnes ne perçoivent pas le travail de la même manière, peut-être un peu moins sur les jeunes générations sont un peu moins sur le long terme, à avoir une carrière longue, etc. Est-ce que vous le voyez aussi à travers les gens, leur histoire, ce qu'ils vous racontent, des différences dans les générations sur la manière de percevoir et de vivre le travail ?
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature sur cette question des générations. Alors nous, on a eu peu de jeunes générations, enfin... Peu, non, quasiment pas de jeunes générations qui sont venues, donc j'aurais du mal à en témoigner. J'ai tendance un peu à méfier des généralités sur les jeunes et le travail. Voilà. Après, il y a effectivement la question de l'engagement dans la durée. Je suis pas sûre qu'ils viennent strictement des jeunes, mais de la question de la mutation du travail, du monde du travail, ou de toute façon... tout le montre, tout est des séquences de vie très très courtes, tout va vite, les changements, et c'est devenu une valeur en elle-même, hein, le fait de changer, qu'il y ait des projets en permanence, ce qui a de grosses conséquences sur la question de la place et de la sécurité des salariés au travail. Donc je ne sais pas si c'est réellement les jeunes qui sont à l'origine de ça, ou s'ils s'adaptent à, de toute façon, une société qui va vers ça.
C'est peut-être aussi l'ambiguïté du mot génération, parce que génération, ça veut dire, ça implique, nous sommes contemporains, voilà, il y a peut-être une question de contemporanéité, et aujourd'hui, tous, plus jeunes ou moins jeunes, sommes, comme tu le disais très justement, dans cette évolution, avec une très très forte injonction à la nouveauté, au changement, à l'adaptabilité constante, à l'adaptation toujours, et comme tu l'as suggéré, qui fractionne et qui empêche éventuellement des engagements aussi à long terme, que ça prenne sens. Si tout est saucissonné, petite empaquetée, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une vision globale, large, et un souffle de...
Oui, et un pouvoir, c'est-à-dire que à partir du moment où, en tant que salarié, vous êtes en permanence changé de fonction, le logiciel que vous utilisez ne fonctionne plus, c'est complètement autre chose, c'est une autre technique qu'il faut utiliser. Non, votre collègue, ce n'est plus celui-là, c'est vous rendez compte à une autre personne. En fait, vous êtes en permanence en situation de découvrir, de ne pas maîtriser votre secteur, d'être... Et du coup, effectivement, de ne pas pouvoir développer des stratégies, de ne pas pouvoir dépasser ce que vos premiers savoir-faire et vraiment les transformer. Donc c'est aussi, ça questionne aussi les relations de pouvoir, hein, que l'on peut avoir, hein, très clairement.
Peut-être On en avait parlé en préparant l'émission, quelque chose de très important pour peut-être pour terminer, parce qu'on entend beaucoup, on perd le sens du travail, on se questionne sur le sens de notre travail. Remettons un petit peu les choses à l'endroit. Dire ça, que l'on perd soi-même, chacun individuellement, le sens du travail, revient une nouvelle fois à faire porter sur les épaules des salariés eux-mêmes, des individus, le flûte. En plus, j'ai perdu le sens que je donne à mon travail, alors que ce serait le travail en lui-même, l'organisation qui est porteur de sens. Et donc, c'est le travail qui doit favoriser les conditions mêmes, qui doit porter le sens.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un mouvement très général de transférer la responsabilité, enfin la charge de la responsabilité sur l'individu. C'est des mouvements depuis les années 80, on va dire, d'individualisation du travail et de responsabilisation du travail. Avant, on prenait la force, le corps, la force du travailleur, on l'a déplacé vers la psyché. C'est-à-dire qu'on demande maintenant à l'individu de s'engager, d'adhérer à des valeurs. On parle de savoir-être, on parle de compétences, alors qu'avant, on était sur des savoir-faire, des qualifications qui donnaient un certain nombre, une place dans la structure. Donc, de la même manière, à partir du moment où l'individu ne va pas répondre aux objectifs qui sont fixés, qui sont des objectifs individuels, alors qu'en réalité, le travail individuel n'existe pas. C'est-à-dire que si j'arrive à faire quelque chose, c'est aussi parce que j'ai toute une organisation qui le permet, des collègues qui y contribuent, et une organisation qui me donne des moyens pour y arriver. À partir du moment où on parvient à me faire penser que c'est ma propre responsabilité individuelle qui fait que je n'arrive pas à atteindre les objectifs, ça veut dire que c'est moi qui suis défaillant. Mmh. Et ça, c'est délétère. Mmh.
Comme on arrive à la fin de l'émission, même on est au-delà de la fin de l'émission. Juste, j'ai dit des pistes de réflexion, de solutions, quoi ?
Je reviens sur la question du collectif. Je trouve pas, enfin, je vois pas de meilleure chose que la question des collectifs et de ces espaces pour arriver à penser ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous traverse tous, avec des éclairages un peu théoriques sur ça.
Donc, si ces questions vous intéressent, rapprochez-vous de cette association. Vraiment, vous merci d'exister. Je pense qu'il y avait un besoin. Je renvoie donc les gens vers le Facebook de Sam Travail. Vous aurez toutes les infos et les ateliers. Et si vous-même, collectivité, association, vous souhaitez inviter justement Sam Travail à organiser un atelier, un forum ou que sais-je, une autre forme, vraiment vous l'inciter hein, à l'association. Et puis si vous voulez être bénévole, bref, si toutes ces questions vous intéressent, rendez-vous sur le Facebook de Sam Travail. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Nickel. Merci Marion, merci Sylvain. C'est la fin de cette émission, et amplement, et voilà. Mais pas la fin de Fréquence 7 aujourd'hui, puisqu'à 13h, vous retrouvez Parole de citoyennes et citoyens, voilà, du collectif qui se bat. 15h, le Telex, avec vos messages, vos annonces. À 16h, la rediffusion de Parole de citoyennes et citoyens. 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 19h, éclectrique. Et puis, à 21h, on parle aussi de nos santé mentale, avec nos santé mentale en lutte. Et là, c'est la deuxième partie sur l'enfance et l'enfantisme. Voilà, vous pouvez réécouter et télécharger toutes ces émissions sur notre site internet fréquence7.net. On se retrouve mardi, puisque lundi c'est Pâques. On se retrouve mardi pour une prochaine onde curieuse. Et demain, c'est cinéma. Ciao.